Nous vous proposons maintenant une interview du docteur Jacques Labesca.
Bonjour, eh bien nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Victor Coutard. Et Victor Coutard, bonjour.
Bonjour.
Victor Coutard est journaliste, mais surtout auteur de livres. Alors, auteur de livres pour enfants, avec toujours un fond écologique et un fond tradition. Tradition orale, artisanale, enfin agriculture biologique, enfin une approche très, très respectueuse de l'environnement, c'est ça je pense, hein.
Exactement. L'idée, c'est de pouvoir encourager mes lecteurs, en fin de lecture, à aller, à sortir, à faire par eux-mêmes, à essayer ce qu'ils auront découvert grâce à des histoires.
Alors donc, vos livres pour enfants sont chez Gallimard, d'ailleurs, dont nous en parlerons, mais nous vous réinviterons peut-être, sûrement même. Alors, mais là vous avez écrit un livre qui est presque un contre lanceur d'alerte, parce que il y a eu la fameuse alerte gluten, hein, avec les tennismen, avec toute une série de bobos, parisiens ou pas, qui se sont mis à attaquer le gluten sous tous les angles, et vous avez écrit un livre, I Love Gluten. Alors, qu'est-ce qui vous a fait écrire ce livre ?
Pourtant, je suis aussi un bobo parisien qui habite dans le 10e. Ce qui m'a fait écrire ce livre, c'est une constatation assez simple. Moi, je suis un grand lecteur, je passe ma vie dans des librairies, et je me suis rendu compte que depuis quelques années, au rayon cuisine, au rayon gourmand, au rayon nourriture, tous les livres qui me sont présentés ne sont que des livres de régime particulier. On fait de la cuisine sans, on fait de la cuisine sans beurre, sans gras, sans gluten, sans viande. On vit dans un monde où la cuisine est faite de rejets et faite de choix de santé. Il faut manger tel aliment pour avoir une meilleure silhouette, tel aliment pour vivre plus longtemps ou tel autre pour pouvoir avoir plus de chances de ne pas avoir d'AVC. Et j'ai trouvé que cette situation était extrêmement stressante, extrêmement inquiétante, parce que je crois que la nourriture est avant tout synonyme de plaisir, de convivialité, d'échange, de partage, enfin un véhicule des choses très très positives. Et je pense également qu'on a la chance de vivre dans un pays où on a encore accès à de bons aliments. Donc la question que je me suis posée, c'était de savoir s'il y avait un bon ou un mauvais gluten. Et si on pouvait toujours aujourd'hui en France revendiquer de manger des pâtes, revendiquer de manger du pain, sans pour autant mettre en danger sa santé et en prenant plaisir à tout ça.
Alors, moi j'ai bien aimé votre livre, surtout à son début, j'avoue, hein, je vais être honnête, mais je suis médecin, donc j'ai un peu un esprit évidemment un peu tordu. Donc j'ai bien aimé parce que vous nous avez raconté que, effectivement, les études, notamment australiennes, qui mettaient en cause le gluten, elles n'étaient pas si fiables que ça. Sauf que très vite, vous allez nous perdre un peu dans votre livre. Enfin, moi je me suis senti un peu perdu parce que vous nous dites, certes, le gluten n'est pas ce coupable que l'on annonce, mais aussi vous nous dites, oui, mais il y a de plus en plus quand même de problèmes digestifs, il y a de plus en plus de problèmes de maladies cœliaques. Alors, vous expliquez ça comment ?
Bah, justement, je ne voulais pas vous perdre, mais j'y ai pensé. Le fait est que, moi, mon livre n'est pas un livre de médecin. La vérité est qu'on sait assez peu de choses sur le gluten. Ce qu'on sait, c'est que les études scientifiques qui ont amené à cette mode du régime sans gluten ont été infondées par les propres scientifiques qui les avaient amenés. Je m'explique, le professeur Peter Gibson de l'université de Monash en Australie, c'est lui qui a expliqué que pour les intolérants, donc c'est ceux qui ne sont pas allergiques, qui sont les malades de cœliaque et qui eux n'ont aucun autre choix que d'arrêter de manger du gluten, pour les intolérants et hypersensibles, en 2011, il publie une étude qui explique que se priver de gluten, ça serait tout à fait bénéfique et ça permettrait aux gens qui ont des problèmes de digestion de digérer plus facilement. Le même docteur, en 2014, infirme sa première étude et explique qu'en fait, ce ne serait pas le gluten le responsable de ces troubles, mais ça serait les FODMAPs. Les FODMAPs, c'est quelque chose de très compliqué à comprendre. C'est un acronyme pour dire fermentable oligosaccharide, blablabla. Mais trop tard, la mode était partie et le marketing s'était emparé de l'affaire. C'est très facile en fait d'expliquer à des consommateurs ce que c'est que le gluten. Le gluten, c'est présent dans les pâtes, dans la bière, dans le pain. C'est facile à enlever. Les FODMAPs, c'est très compliqué. Il y en a partout. Il y en a dans l'ail, il y en a dans les pommes, il y en a aussi dans les pâtes. Par conséquent, cette mode du régime sans gluten a été marketée. Et c'est aussi une mode qui n'est pas basée sur de véritables études scientifiques.
Alors c'est là où votre livre est très intéressant, parce que vous rebondissez, après nous avoir un peu perdu, c'est vrai, parce que moi j'aurais voulu un peu plus de médecine, mais ça c'est normal, c'est la déformation professionnelle, parce que vous nous parlez de glucides complexes, mais vous nous dites quand même, le gluten dont on dispose actuellement n'est plus le même qu'autrefois, on fait en sorte que la pâte...
C'est pas exactement ce que je dis, si je peux me permettre de vous couper, en fait, parce qu'à partir du moment où je suis parti du constat que les études scientifiques qui avaient amené à la mode du régime sans gluten n'étaient pas fiables, j'avais deux solutions. Il y a des millions de personnes qui, dans le monde, ont arrêté de manger du gluten et se sont senties mieux. Donc je pouvais considérer que ces gens étaient complètement stupides et avaient le syndrome, se sentaient guérir par eux-mêmes juste parce qu'ils se sentaient mieux dans leur tête. Mais je pouvais aussi considérer qu'il y avait un vrai problème avec le gluten. Et je me suis dit que ces gens, s'ils se sentaient mieux, avaient très certainement une bonne raison de se sentir mieux. Et donc en fouillant un peu, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème non pas avec le gluten comme ensemble de protéines, mais il y avait un problème avec la façon dont on panifiait, la façon dont on faisait les aliments. Et le plus gros problème qui m'est apparu, c'est le problème des farines dites améliorées. Aujourd'hui, la farine représente des monopoles. Il y a trois grands meuniers en France qui distribuent, je ne sais pas, peut-être 95% de la farine. Et ces meuniers vendent des farines dites améliorées. Améliorées en quoi ? En gluten. En fait, le gluten qui sert de conservateur et qui sert à panifier plus rapidement, qui aide le pain à être mieux congelé, a été rajouté dans des farines qui étaient tout à fait naturelles, des farines qui étaient issues de blé naturellement riche en gluten et qui avaient été sélectionnés parce qu'ils étaient riches en gluten. Et donc, en fait, on se retrouve avec des farines qui sont bourrées de gluten parce que ça aide l'industrie agroalimentaire à panifier plus rapidement, à mieux conserver le pain, etc. Du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être, parce que je dis bien peut-être, parce qu'on n'a pas encore d'études tout à fait certaines, peut-être les problèmes rencontrés par certaines personnes pour digérer le gluten étaient dus non pas au gluten, mais à l'ingestion de produits qui avaient été mal préparés, à la hâte, ou peut-être pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire pas pour la qualité du produit, mais pour pouvoir être congelé plus facilement.
Donc vous nous dites un peu ce que disait Paracels, tout est poison ou médicament selon la dose en fait. C'est-à-dire qu'on en mangerait peut-être trop de gluten. C'est-à-dire que le gluten ne serait pas l'ennemi public numéro un, mais l'excès de gluten, ou du moins la transformation et le raffinage un peu trop, qui est valable aussi pour les sucres, qui est valable pour beaucoup d'aliments, serait le responsable, en fait, de parce que c'est vrai que moi-même, en tant que médecin, j'ai vu beaucoup de patients améliorés par un rééquilibrage alimentaire, non pas sans gluten, parce que je trouve que supprimer quelque chose est toujours une ineptie. Parce que le jour où on en reprend par hasard ou par erreur, eh ben on redéclenche des phénomènes. Mais d'en manger autant qu'on en mange, comme pour les sucres, c'est le même problème. Alors vous avez évacué un peu vite, selon moi, le problème des sucres raffinés et le problème du lactose aussi. Enfin bon, vous avez même été un peu méchant parce que vous avez dit les régimes sans lactose, sans âme, ça risque de rendre les gens malades.
Ça, c'est vraiment le sujet de mon livre, en fait. Plus que le gluten, encore plus. Moi, je m'insurge aujourd'hui un peu avec ce livre contre l'orthorexie. L'orthorexie, c'est l'obsession de manger sainement. Je crois qu'on est en train de créer des malades. On est en train de se rendre malade à vouloir aller bien. Et j'ai le sentiment, surtout dans des microcosmes dans lesquels je vis, comme à Paris, en plein milieu de Paris, Paris-Est, les consommateurs se rendent malades, se font du mal à s'inquiéter pour leur santé, et notamment grâce à ce qu'ils mangent ou grâce à ce qu'ils ne mangent pas. Et du coup, mon livre, il faut le comprendre comme ça. Moi, je ne suis pas médecin, je suis avant tout journaliste, je suis avant tout auteur. Mon obsession, c'est de trouver les meilleurs produits, les meilleurs producteurs, de mettre en valeur et de faire connaître les artisans et ceux qui font bien leur travail. Et ce que je défends, en fait, c'est qu'un bon produit sera toujours meilleur qu'un mauvais produit. C'est assez simple, je vous donne peut-être l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais je crois que nous avons beaucoup de choses à réapprendre. Et notamment pour le gluten, c'est l'exemple le plus édifiant, c'est le pain. Il y a des différences de qualité nutritionnelle, il y a des différences de qualité pour l'écologie, il y a des différences de qualité humaine aussi, parce que ça, il y a la question de comment on rémunère les gens, comment on valorise leur travail. Il y a des questions fondamentales qui se posent par le choix tout simple d'une baguette. On est en France, les gens mangent 3 baguettes par jour, il y a des boulangeries à chaque coin de rue, et la question de quel pain nous voulons, qui est d'ailleurs le titre d'un très bon livre de Marie Astier, quel pain voulons-nous, c'est une question qui est absolument cruciale, parce que c'est une question qui est cruciale pour notre santé, mais aussi pour la santé de la planète.
Vous avez, je crois, raison. En fait, ce qu'il faudrait, c'est revenir à ce qui se passait autrefois. Moi, je me souviens quand j'achetais mes miches de pain au poids dans le boulanger du village, j'avais pas de problème, effectivement, de gluten, parce que lui, il prenait son temps, il prenait les 12 heures ou les 24 heures pour laisser monter la pâte. Et alors, malheureusement, et ce que vous dénoncez très bien, c'est que ce qui pourrait être une bonne idée, ou ce qui pourrait éventuellement être une bonne idée, en disant l'excès en tout est un défaut, est très vite récupéré par l'industrie agroalimentaire, qui là en fait un marché, quoi.
Exactement, et en fait c'est vraiment voilà, moi mon livre n'a pas, si mon livre a un ennemi, c'est l'industrie agroalimentaire. Il faut bien comprendre aujourd'hui que ceux qui sont adeptes du régime sans gluten, qui voient le gluten comme leur ennemi, se trompent d'ennemi. Le véritable ennemi, c'est l'industrie agroalimentaire. Je pense que vous êtes médecin, je suis journaliste, on peut cibler le même problème. Le problème, c'est la quête de profit, c'est essayer de faire des choses plus rapidement que le temps ne le réclame. Et les mauvais produits mis sur le marché par l'industrie agroalimentaire qui ne recule devant rien, maintenant on le sait, ça c'est vraiment catastrophique. Et c'est catastrophique aussi bien pour la santé que pour le goût qui est souvent très oublié de ces débats, que aussi pour des raisons économiques et sociétales qui font que les gens perdent du savoir-faire, perdent de l'intérêt à travailler, et à contrario d'un boulanger qui va prendre 16, 72 heures, qui va chercher ses farines, qui va devoir travailler avec les différentes saisons, avec les différents aléas de son métier.
Respecter les produits, respecter l'environnement.
Et
se respecter soi-même. Voilà, je crois que la conclusion, elle est là. Donc, et puis c'est intéressant parce que dans votre livre, à la fin, vous donnez aussi des recettes. Vous ne parlez pas de machine à pain, mais ça n'a pas l'air d'être votre...
En fait, tout ça, pareil, pourquoi faire une machine à pain ? Finalement,
encore un moyen de récupérer un marché.
Exactement, faire du pain, c'est de l'eau et de la farine. On semble l'oublier, mais faire du pain, c'est à la portée de n'importe qui. Et faire le meilleur pain.
Chaque ferme faisait son pain autrefois.
Exactement. En fait, je tiens beaucoup à le dire, mon livre, c'est avant tout un éloge du faire. Je pense que faire, c'est penser. Je pense que ceux qui font avec leurs mains, ceux qui mettent la main à la pâte, développent leur intellect. Et le pain, c'est un des gestes les plus primaires, c'est un des gestes les plus essentiels. Faire du pain avec du levain naturel, c'est de la farine et de l'eau. On peut faire du pain avec de la farine et de l'eau, et un peu de sel parce qu'on est en France. Mais c'est à la portée de n'importe qui, c'est amusant. C'est amusant pour les enfants, c'est quand même vivant. Enfin, je veux dire, si vous créez votre propre levain, vous allez créer un pain qui est vivant, vous allez créer un organisme qui bouge, qui évolue, qui change selon les saisons, selon votre environnement. Et c'est magique, ça c'est absolument merveilleux, c'est dommage de s'en priver, et on s'en prive trop souvent. Et du coup, au lieu de rejeter, au lieu de dire « moi je vis dans ce perché, je touche pas à ça, c'est mauvais pour moi », j'encourage mes lecteurs à essayer, à comprendre, à voir par eux-mêmes pourquoi ce fameux gluten est si important depuis tant d'années pour la constitution d'aliments.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Victor Coutard. Nous rappelons le titre de votre livre « I love gluten » qui a paru aux éditions Ulmer.